Alors, nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière, c'est-à-dire à parcourir quelques chapitres de ce livre sur l'autorité. L'autorité, c'est un sujet d'actualité. Et en tant que chrétien, enfant de Dieu, c'est bien qu'on ait les idées claires, comme on dit, là-dessus, sur ce sujet. Et grâce à Dieu, le Seigneur, il équipe des frères, il équipe des sœurs pour nous aider à y voir clair. Et donc, Jonathan Liman a écrit un livre sur ce sujet, Autorité. Il s'appelle « Comment l'autorité exercée selon Dieu protège les plus vulnérables, bénit nos communautés et contribue à l'épanouissement de tous ». Nous avons vu la semaine dernière le chapitre 1, qui a porté sur l'autorité créationnelle, et le titre était le suivant de ce chapitre, « L'autorité est une belle création de Dieu, un cadeau de sa part pour partager son règne et sa gloire. » Et donc, nous avons vu que l'autorité vient du Dieu créateur, il l'exerce de façon transcendante, mais aussi de façon immanente. Il est à la fois celui qui donne des directives, qui fixe les règles du jeu, comme on pourrait dire, et à la fois celui qui est avec nous, qui participe et qui veut nous associer à sa gloire et à son règne. L'autorité bien exercée, donc, est une bénédiction pour tout le monde. Et on avait vu, pour terminer, que l'autorité bien exercée conduit à Dieu. L'autorité bien exercée conduit à Dieu. On avait beaucoup lu les chapitres Genèse 1 et 2, et là on va lire la suite. Vous savez, la suite, c'est Genèse 3, la chute. Et ce chapitre 2 porte le titre « L'autorité est le sinistre stratagème de Satan pour supplanter Dieu. » Le sinistre stratagème de Satan pour supplanter Dieu. Et donc, nous avions commencé par des témoignages, par un témoignage la semaine dernière, et on va également lire, je vais vous lire, faire la lecture d'un témoignage, c'est le chapitre 2, et il commence ainsi. J'ai encore beaucoup de mal à prononcer les paroles du chant « L'amour du Père est infini », explique Alice. Tout comme Angela, au chapitre 1, Alice est mère de 3 enfants, mais contrairement à elle, elle est mère célibataire. Je me souviens que je me tenais debout au premier rang de l'église, à côté de mon mari. Toute l'église chantait à pleine voix. Pourtant, certains endroits de mon corps me faisaient mal ou me brûlaient à cause des coups qui m'avaient assénés la nuit précédente. Puis, il s'avançait, montait sur l'estrade, et il prêchait. Alice a été mariée à ce pasteur pendant 15 ans. Elle a rencontré Eric quelque temps après s'être convertie au christianisme à l'université. Il était charmant, il avait du charisme, il faisait partie de ces personnes qui avaient de l'influence au sein du campus universitaire. Alice n'arrivait pas à croire qu'un homme aussi extraordinaire puisse s'intéresser à elle. Ses amis étaient même un peu jalouses. Il faut dire que depuis qu'elle était devenue chrétienne, tout lui paraissait nouveau, exaltant. Cependant, vers l'âge de 12 ans, elle et sa sœur avaient été violées par l'un des anciens de leur église. La situation n'était guère meilleure à la maison. Le père d'Alice était un homme d'affaires extrêmement prospère. Il était en voyage la moitié de l'année. Puis, quand il était à la maison le reste de l'année, il maltraitait Alice, sa sœur et leur mère. La vie à la maison était confortable sur le plan matériel, mais dangereuse et désespérante sur le plan physique. Leur mère avait fait sienne la devise « Préserver la paix à tout prix ». Elle enseigna à Alice que tous les mariages fonctionnent ainsi. Et pour Alice, ça allait de soi. Combien de temps après le mariage as-tu réalisé qu'Eric n'était pas celui que tu croyais ? Ai-je demandé à Alice. Sans aucune hésitation, elle a répondu « 3 jours ». Au tout début de notre lune de miel, il m'a attrapé par les cheveux, m'a frappé et m'a violé. Je me souviens d'avoir pleuré sous la douche cette nuit-là, en prenant conscience que ma mère avait raison. Je suppose que c'est ça le mariage. Des années de maltraitance et d'abus ont suivi, des coups de pied, des coups de poing, des côtes cassées, des commotions cérébrales, des exigences perverses dans la chambre à coucher, une chirurgie rénale après qu'il l'ait roué de coups, l'enfermement dans un placard, les mains plaquées de force sur un poêle brûlant, et la liste continue. Dans les bons moments, il la battait une fois par mois. Dans les mauvais moments, tous les jours. Eric lui a enseigné à ne jamais le contredire ni l'interroger, même sur les sujets anodins tels que « préfères-tu du poulet ou du bœuf ?» De simples questions mettaient en danger son besoin de domination totale, ce qui pouvait le rendre violent. Il l'a également isolé de toute relation, y compris de sa propre famille, ainsi que d'Internet, des médias. Il l'a gardé à la maison et ne l'a laissé sortir que pour aller à l'église ou faire les courses. Elle apprenait les nouvelles de l'actualité à l'église. De son côté, Alice s'appuyait sur sa Bible. Elle lisait les passages tels que « Faites tout sans murmure, ni discussion, Philippiens 2,14 ». Elle se répétait sans cesse ce verset. Elle se donnait de la peine pour être une bonne chrétienne, soumise à son mari et soumise à la volonté de Dieu. Même au milieu de l'épreuve, elle avait confiance dans les projets bienveillants de Dieu. Elle n'avait pas conscience que Satan peut, lui aussi, utiliser la Bible. Matthieu 4, 11. La première fois qu'Alice a pris la fuite, lors d'un excès de rage d'Eric, elle est allée se réfugier chez l'un des collègues pasteurs. Elle n'avait pas de chaussures aux pieds, elle saignait du nez. Le pasteur et son épouse l'ont reçue, l'ont écoutée, et lui ont assuré que les mariages sont toujours difficiles au début. Puis, ils l'ont renvoyée chez elle. D'autres châtiments corporels ont suivi, mais à présent, la situation était pire, puisque elle l'avait trahi. Ce schéma a perduré pendant des années dans différentes églises. Elle gardait le silence sur les abus, les maltraitances, aussi longtemps qu'elle le pouvait. Puis elle finissait par parler à l'un des collègues pasteurs d'Éric ou à l'épouse d'un pasteur. Parfois, il la croyait et entamait quelques démarches pour confronter Éric. Mais il l'exhortait à retourner chez elle et à redoubler d'efforts pour se soumettre sans murmure. C'est ce qui a permis à l'abus de perdurer, voire de s'aggraver. Finalement, les collègues pasteurs d'Éric ont fini par le démettre de ses fonctions. Ils ont exigé qu'Éric et Alice fassent une thérapie de couple avec un conseiller auquel Alice ne faisait pas confiance, car il regardait les femmes de manière déplacée. Elle a refusé. C'est à peu près à cette époque qu'elle s'est séparée d'Éric. Les pasteurs ont réagi en excommuniant Alice. Et les quelques rares amis qu'elle avait dans l'église se sont mis à l'éviter. Par la suite, ce même conseiller a été démis de ses fonctions pour infidélité. Le pasteur qui avait exigé qu'Éric et Alice le rencontrent a lui aussi été démis de ses fonctions en raison de son comportement colérique. Avant leur divorce, Alice avait appelé la police à de nombreuses reprises, avec peu ou pas d'effet. En revanche, après leur divorce, elle a appelé la police plus souvent, notamment lorsqu'Éric maltraitait les enfants. La police a arrêté Éric à quelques reprises. Les juges ont exigé qu'il rencontre des psychologues, mais rien ne pouvait l'empêcher de venir régulièrement à la maison et d'agir comme il l'avait toujours fait. Lors d'une audience, l'avocat d'Élise a présenté à la cour la preuve qu'Éric avait violenté l'une de ses filles. L'officier de police a corroboré cette version des faits et l'enfant a également témoigné contre son père. L'affaire semblait gagnée d'avance pour Alice, mais l'avocat d'Éric a fait croire que l'enfant était ingérable et qu'Éric devait l'empêcher de se faire du mal à elle-même, mais aussi aux autres. Une fois de plus, le juge a exigé qu'Eric rencontre un psychologue, puis il a renvoyé la fille chez son père, cet homme violent et en colère contre lequel elle venait tout juste de témoigner. Au tribunal, Alice, comme beaucoup de victimes de traumatismes, oubliait certains détails, mettait les événements dans le mauvais ordre, se contredisait parfois, elle paniquait facilement, ajoutant de la confusion à ce qu'elle était en train de dire. Il en allait de même quand elle parlait à un pasteur ou à un avocat. Les discours d'Éric, au contraire, étaient très clairs et convaincants. Ses qualités relationnelles naturelles, celles-là même qu'il avait auparavant convaincues, qui avait auparavant convaincu les gens qu'il devait être pasteur, ont joué à sa faveur. Il savait comment gagner la faveur d'un public, tout comme il savait comment jouer avec les nerfs d'Alice. En privé, Éric était très différent de son personnage public. Toutes les autorités établies par Dieu dans la vie d'Alice ont failli à leur tâche. Elles l'ont trahi, soit en abusant d'elle, en la maltraitant, soit en ne la protégeant pas des abus. Son père l'a trahi, son mari l'a trahi, ses pasteurs, ainsi que plusieurs églises et les tribunaux. Les abus physiques et les abus psychologiques. On peut retourner Genèse chapitre 3, relire ce passage qui permet de comprendre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle en prit. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » L'arbre de la connaissance du bien et du mal était bien visible au centre du jardin, juste à côté de l'arbre de vie. Et Dieu avait posé une interdiction de consommation. Cet arbre-là rappelait sans arrêt à Adam et Ève la transcendance de Dieu. C'était lui le Créateur. C'était à lui qu'ils avaient des comptes à rendre. C'était Dieu. Et Dieu seul définissait ce qui était bien et ce qui était mal. Et alors qu'ils filaient le bonheur parfait, en communion avec leur Créateur et en communion avec la création, le serpent est parvenu à les rendre ingrats, vindicatifs et rebelles. Ils ont outragé Dieu qui les bénissait en convoitant sa place, rien de moins. Maintenant, c'est nous les chefs. Plus de soumission à Dieu. Un affront, certes, mais surtout une grande folie. Je reprends la lecture un petit peu plus loin. Lorsque les humains se prennent pour Dieu, ils cessent d'écouter la voix des autres. Ils ne tiennent pas compte des conseils. Ils se sentent facilement offensés ou menacés quand on les reprend. Ils se croient omniscients. Lorsque les humains se prennent pour Dieu, ils s'efforcent de garder le contrôle. Ils se battent, mentent, manipulent, charment, font de l'humour, intimident, forcent. Ils font tout ce qui est dans leur pouvoir pour maintenir leur emprise. Ils se croient omnipotents, tout-puissants. Lorsque les humains se prennent pour Dieu, ils se fient à leur propre instinct pour décider du bien et du mal. Ils accordent davantage de poids à leurs propres jugements moraux qu'à l'avis de leurs parents, de leurs patrons, de leurs pasteurs et certainement du Seigneur. Ils justifient chaque émotion et défendent chaque décision. Ils mesurent la justice et l'équité à la lumière de leurs propres critères. Ils se croient justes. Lorsque les humains se prennent pour Dieu, ils exigent des autres qu'ils honorent leur personne, leurs décisions. Ils deviennent susceptibles et s'apitoient sur eux-mêmes lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Ils convoitent ce que les autres ont et font tout pour la leur voler. Ils croient mériter la gloire. En résumé, lorsque les humains se prennent pour Dieu, ils se placent au-dessus des autres dans une forme de transcendance absolue. Ils se disent qu'ils sont entièrement au-dessus des autres et pas avec eux. Mais ça n'a rien à voir avec la transcendance divine. Il s'agit d'une fausse transcendance. C'est une parodie. Nous utilisons alors les autres comme des pions sur notre échiquier. Nous exigeons d'eux qu'ils se conforment à notre image, tout comme Eric l'exigeait d'Alice. Peu de situations sont plus déshumanisantes, tant pour celui qui subit l'habit que pour celui qui en est à l'origine. Si nous nous emportons, nous nous disons qu'ils l'ont amplement mérité. Nous nous félicitons de chaque geste de gentillesse que nous daignons leur accorder. Aucun de ces stratagèmes ne nous permettra de devenir comme Dieu. Même si nous nous prenons pour Dieu, Dieu est puissant et ne se sent jamais menacé. Il est bon sans jamais être mesquin. Il possède déjà tout. Chaque vache sur chaque colline, chaque étoile de l'espace lui appartient. C'est pourquoi il exerce son autorité avec générosité et bienveillance, comme nous l'avons vu précédemment, la semaine dernière, chapitre 1. Il n'a jamais besoin de quoi que ce soit, puisque tout lui appartient déjà. Cela inclut la domination, le règne, le contrôle et la gloire. C'est pourquoi son autorité n'est jamais motivée par la peur et le désespoir. Elle s'exerce toujours et pour toujours en s'appuyant sur la force et l'amour. Elle donne et donne et donne et donne encore, même quand elle formule des exigences. L'autorité humaine qui se soustrait à Dieu est en revanche toujours usurpée. Elle est constamment en quête de ce qui ne lui appartient pas encore. Par conséquent, elle est toujours faible, animée par la peur et le désespoir. Pour parvenir à ses fins, elle est contrainte d'exercer une certaine forme de violence, même si cette violence se cache derrière un sourire. C'est évident, Eric savait comment charmer le monde extérieur. Pourtant, toute sa vie, il a joué un jeu de dupe. Avec un talent rare, il a constamment cherché à dissimuler la réalité de ce qu'il a infligé à ses proches. Mais alors même qu'il détruisait sa femme et ses enfants, il était en réalité désespéré, rongé par la peur et faible. Et là, ça n'a pas encore tout à fait terminé avec cela. Il nous reste à voir ce qui concerne l'abus spirituel, après l'abus physique et psychologique, l'abus spirituel. Une petite fille lève les yeux vers son père qui est en colère et qui la domine avec un air menaçant. Au fond d'elle, elle sait instinctivement que ce n'est pas juste. Cela ne devrait pas se passer ainsi. Pourtant, Son père insiste sur le fait que sa colère est véritablement justifiée. Et puisqu'elle est conçue par Dieu pour faire confiance à son père, elle commence à le croire. Peut-être qu'il a raison. Je suis une mauvaise fille, je ne vaux rien. Si son père est un homme religieux qui invoque le nom de Dieu, elle est d'autant plus susceptible d'attribuer à son père céleste la colère menaçante de son père terrestre. Dieu me déteste, lui aussi. De son côté, Alice est restée chrétienne, mais elle se demande encore si Dieu la déteste. J'ai entendu Alice prononcer ces paroles à maintes et maintes reprises. Je suis une mauvaise chrétienne. Ou alors, je suis une horrible personne. Elle est maintenant divorcée, mais les problèmes perdurent. En effet, Eric a les moyens financiers nécessaires pour continuer de la poursuivre en justice. Il voudrait récupérer la garde des enfants. Il continue également de la maltraiter et de la violenter en utilisant, comme toujours, les enfants pour faire pression sur elle. Au vu des rapports de police, des preuves photographiques, des jugements rendus, des aveux privés de l'avocat d'Éric, des excuses de plusieurs pasteurs après les faits, je sais que Dieu prend la défense d'Alice et qu'il s'oppose à cet homme. Je sais que Dieu déteste ce qu'Éric fait et que le jugement de Dieu sera terrible si les psaumes imprécatoires de la Bible ont un jour été pertinents. C'est bien dans le cas d'Éric. Pourtant, il m'est facile de tenir ses propos, n'est-ce pas? Alice demeure sous l'emprise de la violence d'Éric. Il lui est plus difficile d'être lucide. Elle se demande, Dieu me déteste-t-il? Est-ce qu'il me punit? Si c'est sa façon de m'attirer à lui, en quoi est-il différent d'Éric qui utilise la punition pour m'attirer à lui? Souvenez-vous, chapitre 1, exercer l'autorité, c'est enseigner une leçon de théologie. Et le père d'Alice, son mari pasteur, les autres pasteurs, les églises et les juges ont enseigné à Alice qui était Dieu. Ils ont fait tout cela en lui cassant les côtes, en minimisant ses douleurs, en la renvoyant vivre chez son agresseur. Ces leçons de théologie sont de nombreuses hérésies, mais elles impriment de manière indélébile dans l'esprit, le cœur et l'âme, parce qu'elles prétendent avoir raison. C'est pourquoi il est facile de commencer à y croire. Alice témoigne. J'aurais mille fois préféré avoir les os cassés, subir des blessures physiques dont on peut guérir, plutôt que de subir les attaques constantes et implacables sur mon âme, pour lesquelles aucune guérison ne me semble possible. Je n'ai pas d'insomnie en passant mes lésions rénales. Je ne fais pas de cauchemars à propos de mes fractures. Ce qui me tient éveillé, c'est la terreur qu'il a réussi à créer en moi et la haine que je ressens à l'égard de moi-même. Je comprends que je dois utiliser des descriptifs physiques au tribunal, mais pour l'essentiel, je suis physiquement guéri. En revanche, je me sens à des kilomètres d'avoir ne serait-ce que commencé à guérir au niveau de mon âme. L'abus spirituel ou l'abus perpétué en utilisant les Écritures sur des dizaines d'années est de loin le plus douloureux que les blessures physiques et les plus difficiles à guérir. J'espère que les chrétiens et les églises le condamnent aussi sévèrement, sinon plus, que la maltraitance. Donc l'abus est l'utilisation de son autorité pour causer du tort. Et l'abus spirituel est l'utilisation du nom de Dieu, des Écritures, de la Bible, pour justifier un abus. Alors, quelle suite à donner maintenant ? on peut avoir, en écoutant ça, il me semble, quatre réactions possibles. La première réaction, qui est très fréquente, Dieu n'existe pas. Sinon, comment pourrait-il tolérer des choses pareilles ? On va y revenir dans un instant. La deuxième possibilité, c'est de renverser la culpabilité, de fuir par le renversement de la culpabilité. Si on regarde le livre de Job, devant les souffrances de Job, ses amis étaient bouche bée. Pour eux, le péché de Job était la seule explication à ses souffrances. Job a péché, c'est pourquoi Dieu le punit. Il souffre et quelque part, il le mérite. Et ce même raisonnement, on a tout facilement tendance à l'appliquer. Si Alice a tant souffert, c'est que quelque part, elle doit bien avoir une responsabilité. Quelque part, elle le mérite un peu. Quelque part, elle l'a bien cherché. C'est une pensée confortable et rassurante. Donc cette question d'abus ne me concerne pas directement. Moi, je ne vais pas souffrir. Et moi, je ne fais pas souffrir les autres. Le renversement de culpabilité. Troisième possibilité, l'auto-justification. Je ne suis pas un homme ou une femme parfaite. Mais dans la façon dont j'exerce moi l'autorité, je suis loin de tout ce que je viens d'entendre. Et donc, il n'y a pas matière à ce que je me remette en question. Je ne me sens pas concerné. Quatrième possibilité, une sainte haine envers toute forme d'abus d'autorité, toute forme d'exercice toxique de l'autorité, pour moi envers les autres et pour les autres envers moi. Et cette quatrième réaction est la plus sage, car en effet, il y a un Éric qui sommeille en chacun de nous. Il y a un Éric qui sommeille en chacun de nous. Le psaume 10 décrit un violeur, il décrit un pédocriminel. Je vous lis les 10 premiers versets. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu autant de la détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps, tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires, il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice, de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans les lieux écartés. Ses yeux épient les malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet, il se court, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit dans son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. La pensée qu'il n'y a pas d'autorité supérieure, transcendante, auquel chaque homme devra un jour rendre compte, conduit aux pires excès, aux pires malheurs. Alors on peut répondre à ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Oui, heureusement, il y a un Dieu. Heureusement, il y a un Dieu. Le psaume se poursuit ainsi. Lève-toi, Éternel, oh, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi, dit dans son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. C'est toi, c'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant, punis ses iniquités, qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin, à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Il est certain que le coupable sera jugé à la mesure de ses forfaits. Cela est juste, mais attention, il y a un Éric qui dort en chacun de nous, car nous sommes tous des fils et des filles de Adam, le rebelle. Dans sa démonstration de la culpabilité générale de l'humanité devant Dieu, dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 9 à 10, Paul cite ce psaume. Je vais faire la lecture de Romains, chapitre 3, 9 à 10. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, c'est-à-dire juifs et non-juifs, ou ceux qui sont religieux ou pas, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. C'est notre verset. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Quand nous n'avons pas de conjoint, on ne peut pas être un mauvais conjoint. Quand nous n'avons pas d'enfant, on ne peut pas être un mauvais parent. Quand nous n'avons pas de pouvoir de chef d'État, on ne peut pas être un Vladimir Poutine ou un Donald Trump. Mais c'est pas ce qui fait de nous des innocents. Car qui n'a pas un jour abusé de son autorité, qui s'est jamais pris pour Dieu en se dérobant à sa bienveillance, autorité à lui. Il y a une bonne nouvelle. Dieu a envoyé son Fils pour régler le problème de l'Éric qui habite en nous. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et l'apôtre poursuit, chapitre 3, 23-26. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant du temps de sa grâce. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui est par la foi. C'est la doctrine de la justification par la foi. La personne qui se repent, qui place sa foi dans le sacrifice de Jésus, reçoit le pardon de ses fautes. Et quelques pages plus loin, chapitre 6, versets 12 à 14. Que le péché ne règne donc pas dans vos cœurs mortels. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez. Offrez-vous à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Par le service volontaire de Dieu, le service volontaire des hommes, nous sommes à l'abri de la tyrannie du péché. Il me reste à transmettre les conseils de nos autorités. Il y a le site gouvernemental arretolesviolences.gouv.fr. Je lis deux petits extraits pour bien clarifier les choses. Là, il parle de violence. Maintenant, on remplace beaucoup le mot abus par le mot violence. Les violences au sein du couple sont un ensemble d'actes, de propos et comportements par lesquels votre partenaire ou ex-partenaire veut vous contrôler et vous dominer. Ces violences sont interdites et punies par la loi. Plus loin, les violences n'ont rien à voir avec les conflits au sein du couple. Dans les disputes ou conflits conjugaux, deux points de vue s'opposent dans un rapport d'égalité. Dans les violences, l'agresseur installe un rapport de domination et prend le pouvoir sur la victime. Par ses propos et comportements, il veut contrôler et détruire sa partenaire ou son ex-partenaire. Le CNEF, deuxième autorité, le CNEF s'intéresse aux abus dans les églises, particulièrement les abus spirituels qui le concernent. Donc l'abus, c'est utiliser l'autorité pour causer un tort, et l'abus spirituel, c'est utiliser le nom de Dieu ou la Bible pour justifier un abus. Alors il peut être parfois difficile pour une victime d'abus dans l'église, dans le sein de l'église, de pouvoir trouver quelqu'un à qui a parlé dans l'église. Et donc le CNEF a mis en place un service d'écoute Stop Abus. Tout dernièrement, ils nous ont envoyé un sondage. Qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Et moi, j'ai dû cocher, on n'a rien fait pour le moment. Et donc, c'est l'occasion de pouvoir placarder le numéro de téléphone de Stop Abus dans notre église. Voilà. Le CNEF nous recommande vivement de faire de l'information sur ces points importants. L'Église ne doit jamais, en effet, être un refuge pour la méchanceté. D'autres circonstances, d'autres péchés, Paul l'avait écrit aux Corinthiens, ôtez le méchant du milieu de vous. Et dans Éphésiens 5, 10, 11, on a un principe général. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et donc, la responsabilité que nous avons, si nous sommes au courant d'un abus ou quelque chose comme ça, il ne faut pas se taire, parce qu'à ce moment-là, on devient quelque part complice. Alors, il y a une suite, fort heureusement, au chapitre 2, c'est le chapitre 3 du livre. Et en attendant cela, pour terminer, je voudrais orienter nos yeux vers le psaume 23, vers le bon berger. On va relire ensemble le psaume 23. David, on le savait, était berger. C'était ça, son premier travail. Et il a été berger de la nation d'Israël. L'Éternel est mon berger.
Je ne manquerai fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Vous avez remarqué comment David a écrit « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Il n'est pas écrit « Ta houlette et ton bâton me terrorisent hein ». Et Jésus s'est présenté comme le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Pour contrer l'autorité toxique, Jésus apporte l'autorité rédemptrice, l'autorité qui répare, qui restaure et qui paye le prix. Donc on verra cela la semaine prochaine par la grâce de Dieu. En s'inspirant de Jésus, il est possible d'exercer une bonne autorité. Seigneur, merci pour cet ouvrage, merci pour ce frère, il est américain, c'est pas tout à fait la même culture, mais Seigneur, je pense que chacun a compris l'essentiel de ce qu'il voulait exprimer. Nous te prions Seigneur pour toutes les personnes qui ont pu être victimes d'un abus d'autorité, qu'ils l'ont ressenti ou qu'ils le ressentent au plus profond de leur chair. Nous prions, Seigneur, de les guérir, de les restaurer et de leur permettre de trouver auprès de toi le consolateur dont elles ont maintenant besoin. Nous te prions également pour tous ces cas d'abus qu'on entend parler dans les églises même. Combien cela est triste et dommageable. Seigneur, nous te prions d'étendre ta bonne main de grâce et de permettre que nous soyons tous et toutes vigilants et éveillés par rapport aux prédateurs qui arrivent à rentrer même dans les églises. Nous te demandons là encore de soigner, de guérir toutes les personnes qui ont été d'une façon ou d'une autre des victimes. Nous te demandons cela parce que tu es Dieu, que tu peux tout. Tu es Dieu. Merci.